7 heures pile, effectivement.
Le journal d'Hélène Zélani. Bonjour Hélène.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
C'est en train de devenir le feuilleton de l'été. Les révélations sur François de Rugy se succèdent. Lui s'engage à rembourser chaque euro contesté. La fin du procès de la souffrance au travail, jugement le 20 décembre pour France Télécom et ses dirigeants accusés de harcèlement moral. Et puis la joie des supporters des Fennecs en France, autrement dit l'équipe de foot algérienne, qui s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations.
Et puis à 8h15, le député de Lyon, Guillaume Larrivé, candidat à la présidence des Républicains, sera mon invité.
François de Rugy, ciblé par une enquête. Le ministre de la Transition écologique, qui a passé une demi-heure à Matignon hier, ne quitte pas le gouvernement, mais il est plus que jamais au cœur de la tourmente après les révélations de Mediapart, notamment sur ses dîners et sur les travaux dans son logement de fonction. À l'époque où il dirigeait l'Assemblée, l'exécutif a tiré les leçons de l'affaire Benalla et veut bien montrer qu'il prend cette affaire à bras-le-corps. Aurélie Herbemont.
Pour essayer de circonscrire l'incendie, le gouvernement passe en mode vérification. Les dîners fastueux de François de Rugy à l'hôtel de Lassay seront soumis au contrôle du secrétaire général de l'Assemblée. Le ministre d'État devra d'ailleurs venir s'expliquer dans les prochains jours. Et si la moindre ambiguïté persistait à la suite de ce travail de vérification, François de Rugy s'engage à rembourser chaque euro contesté, assure Matignon. Le deuxième volet du contrôle concerne les travaux dans son appartement de fonction au ministère pour 63 000 euros. Le cabinet du Premier ministre charge le secrétariat général du gouvernement de diligenter dès aujourd'hui une inspection. Un conseiller ministériel ne cache pas son scepticisme face à ce choix. C'est pas du tout un organe indépendant, c'est très proche de Matignon. Dans la majorité, ce qu'on craint, c'est le feuilleton. François de Rugy reste ministre, mais il est quand même bien affaibli, comme un autre conseiller. À chacun de ses déplacements, dit-il, il sera accueilli par des homards.
Aurélie Herbemont et Mediapart ne ménagent décidément pas le ministre avec de nouvelles révélations, cette fois sur un appartement à Orvault près de Nantes qui bénéficierait d'un loyer social préférentiel.
Un juillet fatal en Macronie, ce sera le thème de l'édito politique de Mickaël Darmon à 7h45.
Et sachez aussi que Cédric Villani, candidat malheureux à l'investiture En Marche pour les municipales à Paris, laisse planer le doute sur un soutien à Benjamin Griveaux. Il ne se prononcera pas avant septembre.
Le procès des suicides à France Télécom a pris fin hier. Jugement du tribunal correctionnel de Paris attend en décembre prochain.
Oui, 46 jours d'audience, 800 pièces à examiner pour ces accusations de harcèlement moral qui ont conduit des dizaines de salariés à mettre fin à leur jour. Douleur des uns, explication des autres, mais on reste campé sur ces positions. Écoutez d'abord Raphaël Louvradou, dont le père s'est immolé par le feu.
Ça a été long, ça a été compliqué. Au terme de 40 jours d'audience, on a un discours structuré, factuel, qui était relayé par bon nombre de témoins, par les longues réquisitions des procureurs. Et en face de ça, on a un discours flou qui consiste, et c'est ce qui a été résumé aujourd'hui dans la défense de Didier Lombard, de dire qu'on a affaire à un gaffeur, à l'humour un petit peu brutal, et que ce qui est demandé en face, c'est de la vengeance collective, et que ça, une condamnation ne pourra pas résoudre les problèmes. Et notre attente, en fait, c'est que dans ces deux mondes qui s'affrontent, ça soit le monde des faits accablants qui l'emporte sur cette espèce de mythologie qui consiste à dire qu'on n'était pas responsable et qu'on savait rien alors qu'on dirigeait une entreprise et que les preuves sont contre vous.
Maître Jean Veil est l'un des avocats de l'ex-PDG Didier Lombard. Il est convaincu qu'une sanction pénale n'adoucira pas la douleur des victimes.
J'ai demandé la relaxe parce que je pense que mon client n'est pas coupable des infractions pour lesquelles il est poursuivi. Nous sommes dans une situation qui est une situation d'une entreprise en très grande difficulté et dont le bilan général de la direction est celui d'avoir sauvé 80 000 emplois alors qu'on aurait pu penser à une situation dans laquelle l'entreprise pouvait déposer son bilan. Je pense qu'on a besoin d'un jugement qui reflète la réalité juridique. L'apaisement, ça n'est pas de rendre une décision qui fait plaisir à l'un ou à l'autre. Nous verrons ce que le tribunal décidera.
Des propos recueillis par Chloé Triomphe, jugement donc le 20 décembre prochain.
Et Europe 1, il est 7h04.
La loi a-t-elle été respectée dans le processus qui a conduit à la mort de Vincent Lambert?
Oui, c'est une question à laquelle devra répondre l'enquête lancée dès hier par le parquet de Reims, qui a également ordonné une autopsie de l'ancien infirmier de 42 ans, décédé 8 jours après l'arrêt des soins. Cette autopsie, Yasmina Katou, elle aura lieu ce matin à Paris.
Oui, le corps de Vincent Lambert a été transféré dès hier après-midi du CHU de Reims vers l'Institut médico-légal de Paris. Son autopsie sera réalisée par deux experts. Des analyses toxicologiques sont prévues pour vérifier quels produits ont accompagné la mort de Vincent Lambert. L'objectif, s'assurer que la loi a bien été respectée lors du processus d'arrêt des soins. Les analyses se dérouleront à Paris. Dans un souci d'impartialité, détaille le procureur de la République de Reims. Il s'agit d'une enquête en recherche des causes de la mort, à l'initiative du procureur lui-même. La loi lui permet de lancer des investigations lorsqu'une personne décède dans des conditions particulières. Le procureur a tenu à expliquer lui-même le but de cette enquête à chaque membre de la famille. Dès hier, le matériel médical utilisé a été saisi au CHU de Reims. Des auditions du personnel hospitalier sont également prévues. L'enquête durera plusieurs mois. La dépouille de Vincent Lambert sera, elle, restituée dès ce soir à sa femme Rachel.
Yasmina Katou.
Juste après votre journal, Hélène, dans Europe 1 va plus loin, coup de projecteur sur la fameuse question des directives anticipées avec Jean-Sébastien Soldaini.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant, la suite du journal et des arbres contre le réchauffement climatique à Bordeaux et la joie des supporters algériens. Tout de suite.
Bonjour, vous cherchez un véhicule ?
Un SUV.
Votre signe ?
Capricorne.
Capricorne. Ce mois-ci, les banquettes arrière sont alignées et font souffler un vent de liberté. Eh ben, c'est plutôt clair, on va partir sur un T-Cross.
Chez Volkswagen, on a une large gamme de SUV, mais la personne la mieux placée pour choisir un modèle, c'est vous. En ce moment, profitez du crédit 0% sur toute la gamme SUV de Volkswagen. Pour 10 000 euros empruntés, 1 500 euros d'apport, 36 mensualités de 277,78 euros, montant total dû 10 000 euros. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, conditions sur Volkswagen.fr.
Entre sa carrière de professeur de danse et sa relation avec Aymeric, Hortense est persuadée d'avoir une vie parfaite. Mais le jour où elle fait une mauvaise chute, elle s'aperçoit que son bonheur n'est qu'illusion. Imaginez un nouveau départ avec Agnès Martin-Lugan dans À la lumière du petit matin aux éditions Pocket.
Cet été, pour 2 livres Pocket achetés, un cadeau offert. Voir modalité en magasin.
Monsieur Maillard chez Optical Center.
Alors, monsieur Maillard, vous entendez mieux avec vos appareils auditifs ?
J'entends parfaitement. Ils sont très discrets.
Et en ce moment, chez Optical Center, vous bénéficiez de 40% de réduction sur toutes les marques d'appareils auditifs, plus une paire de lunettes à votre vue offerte, même en verre progressif. Alors, monsieur Maillard ?
Alors, c'est tout vu et tout entendu.
Optical Center, optique et audition. Offre valable du 1er janvier au 31 juillet 2019 chez Optical Center. Conditions en magasin, dispositifs médicaux, demandez conseil à votre médecin, lire attentivement la notice.
Il est 7h07 sur Europe 1. Vous écoutez la matinale info de Pierre Devine.
Et la suite du journal d'Hélène Zélani ce matin à 8h30. Les négociations vont reprendre au siège de Conforama.
Oui, le comité d'entreprise extraordinaire avait été interrompu hier après l'intrusion de salariés en colère. Il doit donc reprendre tout à l'heure à Logne, en Seine-et-Marne. Mais les syndicats laissent planer le doute sur leur présence. Ils réclament le retrait du plan de restructuration et de ses 1900 suppressions de postes avant de reprendre les discussions. Mouloud Amour du syndicat FO.
On demande le retrait, clairement. Là, c'est la base de discussion pour nous, c'est celle-là, c'est le retrait. À défaut du retrait, essayer de réduire le nombre de fermetures. Une nouvelle fois, à défaut de réduire le nombre de fermetures et donc le nombre de suppressions de postes, c'est effectivement améliorer, mais largement, les mesures d'accompagnement. Parce que là, elles sont indécentes. C'est vraiment, c'est insupportable. Il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il y a des salariés qui vont partir avec 2000 euros bruts. Où est-ce que vous allez avec 2000 euros bruts ? C'est impossible. Clairement, je n'ai jamais vu, ça fait 33 ans que je travaille chez Conforama, je n'ai jamais vu un PSO, un plan de départ volontaire, où il n'y a rien. Et c'est la première fois.
Le représentant FO de Conforama au micro Europe 1, de Maud Descamps.
On a beaucoup parlé de chaleur et de canicule ces derniers temps. Bordeaux pense avoir trouvé la solution.
Oui, en effet, 20 000 arbres seront plantés d'ici 2025 dans le cadre d'un plan baptisé Canopée. Un plan qui doit permettre de lutter contre le réchauffement climatique. Reportage de Stéphane Place.
Sur l'immense place Péberlan, très minérale et qui renvoie une chaleur étouffante, des arbres dans des gros pots installés au pied de la cathédrale de Bordeaux, un îlot de fraîcheur temporaire pour l'été et qui marque le lancement de ce plan municipal de végétalisation de l'espace public. Une nécessité, reconnaît le maire de Bordeaux, Nicolas Florian.
L'actualité climatique nous confronte de jour en jour à ce réchauffement et des températures excessives. Moi j'ai une expression qui peut être un peu cavalière, c'est je veux qu'on marche à l'ombre. Il faut pas être totalement dogmatique, des fois pour des raisons de sécurité, des raisons sanitaires, on est obligé de faire de la bataille. Mais par ailleurs, sanctuariser l'arbre en ville. Donc c'est cette végétalisation qui nous permet d'avoir un peu plus de fraîcheur. Et par ailleurs, on stocke du carbone dans un arbre.
Alors que le mercure flirte avec les 30 degrés, planter 20 000 arbres dans les 6 ans qui viennent, c'est une idée qu'apprécient ces passants croisés devant la mairie.
C'est une ville où la pierre respire le soleil, le recrache le soir. Les arbres sont vraiment nécessaires.
C'est une urgence, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, tous les arbres ont été coupés. Donc c'est toujours étrange.
Et planter ces arbres en ville suppose de viser juste, car dans les sous-sol avec l'explosion du numérique, des besoins de connexion, eh bien se sont multipliés tuyaux, fibres et câbles divers. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
Ils avaient eux très chaud devant leur télé, les supporters de l'équipe de foot d'Algérie. Les Fenech se sont qualifiés pour les demi-finales de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations face à la Côte d'Ivoire. Victoire à l'issue des tirs au but qui a fait battre très fort le cœur des supporters en France. Ils ont fêté la nouvelle une bonne partie de la soirée, notamment dans le quartier parisien de Barbès où s'est rendu Chanel Petit.
Je regarde pas les pénaltys, je peux pas, sinon je fais arrêt cardiaque.
À 14h53, d'un coup, Mohamed, enroulé dans un drapeau algérien, tombe à terre.
Oh, madame, j'ai trop fier. J'en peux plus, madame, je te jure, j'en peux plus. J'en peux plus, là, j'ai les larmes aux yeux.
Autour de lui, les fumigènes craquent et rougissent le ciel. Comme une vague, les supporters sortent en courant. Des immeubles, des bars, des boucheries et même des salons de coiffure où était diffusé le match envahissent la rue, montent sur les lampadaires et dansent sur les abribus.
L'Algérie qualifiée. Magnifique. On est content, là, on savoure.
Franchement, on est aux anges.
On est content.
On est content.
On est content, grave.
C'est une fierté pour nous, ça fait longtemps. Ça fait plaisir. Vive l'Algérie.
On va gagner Coupe d'Afrique. Et ouais, après, je fais deuxième étoile.
Les klaxons résonnent dans tout le quartier alors que la foule en liesse défile sur le boulevard de la Chapelle, direction les Champs-Élysées.
Chanel Petit, des supporters qui ont provoqué des débordements dans ce quartier des Champs-Élysées où des vitrines ont été brisées, des magasins de motos pillés. Les forces de l'ordre ont dû utiliser des gaz lacrymogènes. À Marseille, pas d'incident majeur à signaler. 6000 supporters s'étaient rassemblés sur le Vieux-Port pour fêter la victoire de leur équipe fétiche. Et puis du côté du Tour, Julien Alaphilippe a perdu le maillot jaune de leader pour seulement 6 secondes au profit de l'Italien Ciccione. Étape remportée par le Belge Teuns. Aujourd'hui, ce sera l'étape la plus longue, 230 km entre Belfort et Chalon-sur-Saône. Merci.